You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Et les grands titres de ce mardi 18 septembre 2018 en Australie. Doit-on penser à introduire des tests qui analysent ce que contiennent les drogues dans les festivals de musique pour éviter au maximum les overdoses? Un projet que les Verts soutiennent, mais que le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud rejette fermement. À l'international, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les troupes russes et turques imposeraient une nouvelle zone démilitarisée dans la région syrienne d'Idlib. Enfin, en France, l'an prochain, 1800 postes supprimés dans l'éducation nationale administrative, collèges et lycées concernés sur le pouvoir d'achat des enseignants. Le ministre de l'Éducation vise 1000 euros d'augmentation par an pour un professeur débutant. En Australie d'abord, est-ce qu'introduire des tests à disposition du public et qui analysent les drogues contenues dans des pilules, surtout dans les festivals de musique, serait la solution pour éviter au maximum les overdoses? Les Verts ont déclaré qu'ils soutiendraient ce projet qui a été proposé après la mort, par overdose donc, d'une jeune femme et d'un jeune homme, samedi dernier au festival de musique DEFCON à Sydney. Selon l'Australian Medical Association, ces tests doivent être envisagés, mais le gouvernement fédéral ainsi que le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud reste fermement opposé à cette pratique et le chef des Verts, Richard Di Natale, a déclaré que le fait de rejeter l'idée mettait des vies en danger. On l'écoute.
It doesn't matter what I say, it doesn't matter what the Premier says, it doesn't matter what the Prime Minister of this country says to young people, because they will continue to use illicit substances. And our job is, are we going to ensure that those people are put in an environment where they can do it in a way that is safer? Or are we going to continue to stick our heads in the sand and watch more people lose their lives senselessly?
Et une autre affaire de harcèlement et d'intimidation entache le monde de la politique en Australie. La députée libérale Anne Soudmalis a accusé publiquement Gareth Ward, un autre député libéral fédéral, de brimade et de trahison. Ward a demandé à la députée sortante Anne Soudmalis de répéter ses accusations de harcèlement en dehors de la protection du privilège parlementaire. Cette querelle publique entre un État et un libéral fédéral fait suite à la décision de Madame Soudmalis de quitter le Parlement, invoquant le harcèlement au sein de la coalition. On l'écoute.
Was it because they thought I'd lose the next election? Hardly. When I had the confidence of the former Prime Minister Malcolm Turnbull and the current Prime Minister Scott Morrison openly stating on national television their support for me. This was all about Gareth's narcissistic revenge, planned and plotted. I have decided that enough is enough.
Monsieur Ward, de son côté, nie ses propos qu'il accuse d'avoir mené une campagne contre Madame Soudmalis.
There was any evidence to support the claims that Ms. Soudmalis made, I challenge her to make them outside of Parliament, where she's not protected by parliamentary privilege. As someone who was bullied because of my disability at school, I know what it's like to be bullied, and I wouldn't wish that or want that for anybody. So the comments tonight, I think, are more reflective of someone who's bitter towards me than the other way around.
Soudmalis démissionnera lors des prochaines élections, ce qui portera un coup dur aux tentatives du Premier ministre australien Scott Morrison de faire venir plus de femmes au Parlement. Et le maintien de la signature de l'Australie dans l'accord de Paris était une question de sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre australien donc. Les membres les plus conservateurs de la coalition ont fait pression pour que l'Australie quitte cet accord. Sur cet argument, quitter l'accord permettra au pays de se tourner vers des sources d'énergie alimentées au charbon et au gaz, ce qui contribuera à réduire les factures d'électricité pour les consommateurs. Oui, mais ces sources d'énergie seront mauvaises pour l'environnement. Morrison a déclaré donc à Sky News que les relations entre l'Australie et ses voisins du Pacifique étaient trop importantes pour risquer une décision qui n'aurait pas d'impact significatif sur les factures d'électricité. Et Louise Taylor a été assermentée au tribunal d'instance du territoire de la capitale australienne en tant que premier officier de justice aborigène du territoire. Elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans divers tribunaux, dans des rôles de défense et d'accusation. Elle dit avoir été bouleversée par la réaction positive à sa nomination par la communauté aborigène. On l'écoute.
My appointment means that much more to me because Aboriginal people here in the ACT and beyond have expressed to me how much it means to them, to our communities. I can't quite describe to you how special it feels to know that my mob are so proud of me.
Et le Conseil australien des services sociaux, ACOS, demande que le taux de prestations sociales, comme l'allocation Newstart, soit augmenté. Un nouveau rapport du géant comptable Deloitte a constaté que le fait de lever des indemnités de 75 dollars par semaine entraînerait une relance de l'économie australienne et des communautés régionales. Cassandra Goldai, directrice générale d'ACOS, souhaite que les deux principaux partis s'engagent à augmenter le paiement. On l'écoute.
We have almost two-thirds of people now who are long-term unemployed trying to get back into the labour market whilst trying to live on just $39 a day. Socially, this is corrosive. Socially, it is deeply unacceptable. Socially, for the country, it is a national embarrassment.
Enfin, une jeune femme de 23 ans, originaire d'Adélaïde, a été reconnue coupable hier d'appartenance au groupe terroriste Daesh. Un jury de la Cour suprême a placé Zainab Abdirahman Khalif en détention provisoire. La jeune fille avait été arrêtée en juillet 2016 alors qu'elle tentait de prendre un vol aller simple Adélaïde, Turquie, avec 170 dollars et un bagage à main en possession seulement. La Turquie est un point de rencontre avec les terroristes et les nouvelles recrues qui se font influencer le pays partageant la frontière avec la Syrie. Et à l'international, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les troupes russes et turques imposeraient une nouvelle zone démilitarisée dans la région syrienne d'Idlib. La Russie, fervent défenseur du président syrien Bachar al-Assad, se préparait à lancer une offensive contre la ville contrôlée par les rebelles. Mais les pourparlers entre Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont abouti à une résolution selon laquelle il n'y aura plus d'offensive. Le président russe a déclaré que les rebelles, qualifiés par ce dernier de, je cite, radicaux, seront obligés de se retirer de la nouvelle zone d'ici le milieu du mois prochain. On l'écoute.
We decided to create a demilitarized zone between the rebels and the government by the 15th of October this year. It will be 15 to 20 kilometers wide. Rebels must withdraw from there, including Al-Nusra Front. According to our proposal, by the 10th of October, heavy artillery must be removed from this zone. Tanks, other machinery, guns, all removed from this zone by opposition forces.
Et en France maintenant, cette annonce dans l'éducation nationale. 1800 postes vont être supprimés l'an prochain. Les syndicats sont très remontés, mais le ministre se veut rassurant. Il précise que son budget va augmenter et il envisage de mieux rémunérer les professeurs débutants. Le point sur ces derniers bouleversements, qui peuvent sembler contradictoires, Catherine Rougerie, Jean-Marie Lecartier et Sylvain Girmand sur France 2.
L'éducation nationale ne sera pas épargnée. Jean-Michel Blanquer annonce la suppression de 1800 postes l'an prochain dans le second degré, c'est-à-dire les collèges et les lycées.
Une partie de ces postes sont des postes, qui ne correspondent pas à des postes devant élèves. Et donc les taux d'encadrement ne vont pas se dégrader dans le second degré, puisque notamment nous injectons beaucoup plus d'heures supplémentaires dans le système.
Concrètement, sur les 1800 postes supprimés, il y aura au moins 400 postes administratifs en moins. Objectif, mieux payer les enseignants, jusqu'à 1000 euros de plus sur une année en début de carrière pour un professeur débutant. Mais le compte n'y est pas pour ce syndicat d'enseignants. Moins de professeurs, c'est un second degré sacrifié.
Aujourd'hui, la majorité des collègues ont en lycée plus de 30 élèves par classe, ce qui rend les conditions de travail extrêmement difficiles. Il faut se rendre compte quand même qu'aujourd'hui, c'est aux alentours de 70% des classes de seconde en lycée qui sont au-dessus de 30 élèves. Comment voulez-vous qu'on puisse faire correctement notre travail dans ces conditions-là ?
Malgré ces suppressions de postes, le budget de l'éducation nationale devrait augmenter l'an prochain de 850 millions d'euros, soit plus 1,7%. Pas de quoi rassurer non plus les parents d'élèves.
La baisse du nombre de professeurs n'est a priori pas une bonne nouvelle. Le nombre d'élèves par classe est un facteur important de réussite et de qualité de l'enseignement. Alors, le nombre de professeurs ne fait pas tout. Il y a la pédagogie, il y a beaucoup de choses, il y a l'organisation qui peut être améliorée, mais il est important qu'on n'augmente pas le nombre d'élèves par classe.
Cette coupe dans les effectifs intervient après 6 années de hausse du nombre d'enseignants.
Et ces propos du président qui font polémique ce week-end, Emmanuel Macron a conseillé à un jeune en recherche d'emploi dans l'horticulture, croisé à l'Élysée dans le cadre des journées du patrimoine, de se réorienter dans la restauration et de traverser la rue pour trouver un travail. On écoute la séquence.
Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Oui, bah, ouais. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je donne mon CV, il ne me rappelle jamais. Non, mais enfin,
vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.
Alors, peut-on trouver du travail en traversant la rue ? Sur France 2, ils ont fait le test. On écoute le reportage.
À entendre le président de la République dans le quartier de Montparnasse à Paris, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi dans la restauration. Première tentative dans ce café-restaurant.
Ici, ça ne marche pas comme ça. Hein ? C'est vrai que traverser la rue et puis trouver du travail, n'importe qui peut le faire. Ici, par exemple, c'est une maison qui a un certain volume et on ne peut pas prendre le risque de prendre du personnel débutant. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on n'est pas, si vous voulez, on n'a pas le temps pour faire de la formation.
On peut donc trouver du travail à condition d'avoir de l'expérience en restauration. Deuxième tentative dans ce restaurant, cet homme vient candidater.
Aujourd'hui, on est complet, ouais. Mais bon, si vous voulez laisser un CV, pourquoi pas.
Mais aucun poste à pourvoir.
Donc tout de suite, vous ne cherchez pas...
Pas forcément, non. Mais bon, on peut toujours garder le CV et si on a une place qui se libère, on la prendra, ouais.
Selon la serveuse de ce troisième établissement, il ne faut pas attendre très longtemps pour se faire embaucher. Plus que l'expérience, c'est la motivation qui prime.
Dans ce secteur-là, oui, c'est un secteur qui recrute toujours.
On peut se former assez facilement.
On peut se former assez facilement. Et après, je vous dis, il y a de la motivation, il n'y a pas de secret.
Car toutes les études du secteur le démontrent, des dizaines de milliers d'emplois sont à pourvoir immédiatement.
Nous connaissons un déficit d'emplois de plus de 125 000 salariés. Je crois qu'il faut être très ouvert dans cette affaire. Et le président a bien dit, il faut être motivé et il faut être prêt. Il faut oublier ce genre de barrière et de se dire, parce que j'ai appris tel métier, je ne ferai pas tel autre métier.
Mais la restauration peine à séduire pour deux raisons principales, les faibles salaires et les horaires de travail en décalé.
Et mercredi dernier, en France, un nouveau service de VTC a été lancé dans l'ouest de Paris et trois villes limitrophes de la capitale. Il s'appelle Colette, une référence à l'écrivaine et à la romancière. La particularité de cette plateforme, des voitures dédiées à la gente féminine, exclusivement conduites par des femmes, donc avec des tarifs proches de ceux pratiqués par Uber, la firme américaine leader dans le service VTC. L'idée, c'est de permettre à des conductrices d'exercer le métier de chauffeur, car aujourd'hui, 95% des chauffeurs VTC sont des hommes. Présentation d'un projet qui a aussi, et peut-être surtout pour objectif, de rassurer celles qui utilisent un service de VTC et qui sont susceptibles de subir des remarques déplacées. Reportage de Stéphane Genest pour RFI.
À quelques encablures de la gare Saint-Lazare, Clémence Lee, assise sur un banc dans un square. L'étudiante de 22 ans vient de sortir de cours et comme beaucoup de personnes de sa génération, elle utilise un service de VTC de type Uber pour rentrer de soirée lorsqu'il n'y a plus de transport en commun. Mais il y a 2 ans, alors qu'elle avait pris place dans un véhicule pour rentrer chez elle, Clémence a subi des remarques insistantes de la part du chauffeur.
C'était suite à un événement où une star avait malencontreusement montré ses parties intimes à la télé. Que le chauffeur a voulu revenir sur l'histoire et m'a gentiment demandé si je portais des sous-vêtements avec bien sûr sourire appuyé et voix douceâtre qui allait bien avec et regard sur moi assez appuyé. Donc j'ai pas trop répondu, mais il avait l'air de faire sa conversation tout seul sans souci.
Valérie Furcage est la cofondatrice de l'application Colette. Elle a fait le constat que les femmes conductrices de VTC renoncent à travailler en soirée et la nuit, les périodes les plus rentables. L'idée, c'est aussi que les clientes puissent avoir le choix et qu'elles ne se retrouvent pas seules dans une voiture avec un inconnu.
Pour toute femme qui aimerait avoir le choix, à certains moments de la journée, être raccompagnée ou avoir le choix entre un conducteur homme ou une conductrice femme pour juste faire un trajet d'un point A à un point B, aujourd'hui, ce choix est très compliqué, il n'existe pas. Si vous souhaitez être conduite par une conductrice, vous ne pouvez pas la trouver aisément. Donc aujourd'hui, on la trouvera beaucoup plus facilement sur la plateforme Colette.
Les hommes, eux, sont autorisés dans les véhicules de la plateforme Colette, à condition qu'ils soient accompagnés d'une femme. Céline a 34 ans, elle est employée de banque et elle considère que cette initiative exclut tout de même une partie de la population.
Je pense que malheureusement, c'est pas la solution. Ça met le doigt sur un symptôme d'un problème plus large, mais à mon avis, ça règle pas le problème, parce qu'on va déplacer les choses et on crée une certaine forme de sexisme inversé. En créant un service qui n'est fait que pour les femmes et duquel on exclut les hommes au lieu de régler le problème et de dire que le vrai problème, en fait, c'est le manque de respect des femmes et de leur consentement par les hommes.
Concernant l'aspect juridique de l'activité, les conductrices ne sont pas embauchées, mais elles ont le statut d'auto-entrepreneur. Une formule qui permet à Colette d'éviter la discrimination à l'embauche.
En sport rapidement et en basketball, l'Australie a franchi un pas de plus vers la qualification pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Après avoir battu le Kazakhstan 94-41 à Bendigo, les Boomers l'ont largement mené face aux visiteurs hier soir. Ils ont pris possession de la première place du groupe F de la qualification dans la zone asiatique. Et les victoires en Australie lors des deux prochains matchs de qualification à domicile en novembre et décembre garantiront une place parmi les trois premières et une place à la Coupe du Monde 2019 en Chine. Et un rapide coup d'œil à la météo de ce mardi. Plutôt nuageux et 19 degrés à Perth, de la pluie et 16 degrés à Adélaïde, du vent et des possibilités de pluie, 20 degrés à Melbourne, conditions similaires, 19 degrés à Hobart en Tasmanie, du soleil et 20 degrés à Canberra, du soleil également 22 degrés à Wollongong. C'est ensoleillé avec 25 degrés à Sydney, les conditions similaires avec 25 degrés également à Newcastle. C'est plutôt ensoleillé avec 24 degrés à Brisbane, partiellement nuageux 30 degrés à Cairns et enfin du soleil 34 degrés à Darwin. Et enfin en bourse, aujourd'hui avec un dollar australien, vous achetez 0,69 US dollars, 0,58 euros et 0,52 livres sterling.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.